Chapitre 2 La casquette grise. L'employé de la gare et deux voisins, réveillés par le bruit, accoururent. L'un d'eux avait le téléphone chez lui. Victor le pria d'avertir le commissariat de Saint-Cloud. L'autre alla quérir un docteur qui ne put que constater la mort du père Lescot, frappé d'une balle dans la région du cœur. Édouard, dont la blessure n'était pas grave, fut transporté à Paris. Lorsque le commissaire de Saint-Cloud arriva avec ses agents, Victor, qui avait veillé rigoureusement à ce que rien ne fût dérangé, le mit au courant du drame. Ils jugèrent tous les deux qu'il était préférable d'attendre le jour pour relever les traces laissées par les deux complices, et Victor retourna chez lui à Paris. Dès 9 heures, il revint aux nouvelles et trouva la bicoque entourée d'une foule de curieux que les agents tenaient à distance. Dans le jardin où il pénétra et dans le pavillon, s'agitaient d'autres inspecteurs et des gendarmes. L'arrivée du parquet de Versailles était signalée, mais on assurait qu'il y avait contre-ordre de Paris et que l'instruction serait réservée au parquet de la Seine. Soit par un entretien qu'il eut avec le commissaire de Saint-Cloud, soit par ses recherches personnelles, Victor acquit quelques certitudes plutôt négatives, car en somme, l'affaire restait fort obscure. D'abord, aucune indication sur l'homme qui avait fui par le rez-de-chaussée, ni sur la femme qui avait fui par la fenêtre. On découvrit bientôt l'endroit où la femme avait franchi la haie pour gagner la ruelle parallèle à la route. Et l'on découvrit aussi les empreintes laissées par les montants de l'échelle au-dessous du premier étage. Mais l'échelle, qui devait être en fer, pliante et portative, demeura introuvable. Et l'on ne sut pas comment les deux complices s'étaient rejoints et comment ils avaient quitté la région. Tout au plus put-on établir qu'une automobile avait stationné, à partir de minuit, 300 mètres plus loin, le long du haras de la Selle Saint-Cloud, et qu'elle s'était remise en marche à 1h15, évidemment pour retourner à Paris par Bougival et les bords de la Seine. Le chien du père Lescot fut retrouvé dans sa niche, mort empoisonné. Aucune trace de pas sur le gravier du jardin. La balle extraite du cadavre, ainsi que la balle extraite de l'épaule de l'inspecteur Edouin, provenait d'un Browning de 7,65 mm. Mais qu'était devenu le Browning? En dehors de ces petits faits, rien. Victor s'attarda d'autant moins que les journalistes et les photographes commençaient à sévir. D'ailleurs, il avait horreur de travailler en compagnie et de perdre son temps, comme il disait, en hypothèses dialoguées. Seul l'intéressait la psychologie d'une affaire et ce qu'elle exige de réflexion et d'intelligence. Pour le reste, démarches, constatations, poursuites, filatures, il ne s'y livrait qu'à contre-cœur et toujours en solitaire, pour son propre compte, aurait-on dit. Il passa chez l'employé de la gare, vaillant dont la femme revenue de Versailles prétendit ne rien savoir et ne pas avoir reconnu l'individu qui rôdait près de la bicoque au cours des soirées précédentes. Mais Vaillant, qui reprenait son service, le rattrapa devant la gare et accepta d'entrer au café des sports. « Voyez-vous, dit-il, dès que l'apéritif eut délié sa langue, Gertrude, c'est ma ménagère, Gertrude, comme porteuse de pain, va dans les maisons, et si elle jaspine, ça lui retombe sur le dos. Moi, c'est autre chose. Comme cheminot, comme fonctionnaire, je dois aider la justice. » Et alors ? Alors, fit Vaillant en baissant le ton, voici en premier lieu la casquette grise dont elle m'avait parlé et que j'ai ramassée sous des orties et un dépôt d'ordures que je nettoyais ce matin dans un coin de mon enclos. Le type a souvent cette huile rejetée au hasard par-dessus ma haie. Ensuite, Gertrude est certaine que le type de mardi soir, dont le type a la casquette grise, est un monsieur où elle porte le pain tous les jours, un monsieur de la haute. Son nom? Le baron Maxime d'Autray. Tenez, penchez-vous sur la gauche, là, la maison, là, la seule maison de rapport sur la route qui va à Saint-Cloud. Oh, 500 mètres d'ici, peut-être. Il occupe le quatrième étage avec sa femme et leur vieille bonne. Oh, des gens très bien, un peu fiers peut-être, mais si bien que je me demande si Gertrus ne s'est pas blousé. Il vide ses rentes? Fiche-toi, non, non, il est dans les vins de champagne. Chaque jour, il file à Paris. Et il en revient à quelle heure? Oh, par le train de 6 heures, qui arrive à 19. Lundi dernier, il est revenu par ce train-là. Oh, pas de doute, oh, il y a qu'hier, je ne peux rien dire puisque je conduisais ma femme. Victor se taisait. L'histoire pouvait s'imaginer ainsi. Le lundi, dans le compartiment du train de 6 heures qui la ramène de Paris, la dame Chassin s'est assise près du père Lescaut. D'habitude, épouse en instant de divorce, elle s'abstient de parler à son amant quand elle n'est pas avec sa mère. Cela dit là, elle a volé, par un mouvement involontaire, l'enveloppe jaune. Tout bas, sans en avoir l'air, elle l'avertit qu'elle a un dépôt à lui confier et peu à peu, elle lui glisse l'enveloppe qu'elle aura eu le temps peut-être de rouler et de ficeler. Ce geste, le baron d'Autray qui est dans la voiture le surprend. Il a lu les journaux. Une enveloppe jaune, mais est-ce que par hasard? À Saint-Cloud, la dame Chassin s'en va. Le père Lescaut continue jusqu'à Garches. Maxime d'Autray, qui descend aussi à cette station, file le bonhomme, repère son logis, rôde le mardi et le mercredi autour de la bicoque et le jeudi se décide. Ah, une seule objection, pensa Victor, après avoir quitté son compagnon et tout en se dirigeant vers l'immeuble désigné. Tout cela s'enchaîne trop bien et trop vite. La vérité ne se voit jamais aussi spontanément et n'a jamais ce caractère simple et naturel. Victor monta au quatrième étage et sonna. Une bonne âgée, avec des lunettes et des cheveux blancs, ouvrit, et sans lui demander son nom, l'introduisit dans le salon. « Faites passer ma carte, » dit-il simplement. La pièce qui servait aussi de salle à manger ne contenait que des chaises, une table, un buffet et un guéridon, tout cela médiocre en apparence, mais reluisant de propreté. Des images de piété au mur, sur la cheminée quelques livres et des brochures de propagande religieuse. Par la fenêtre, une vue charmante sur le parc de Saint-Cloud. Une dame parut, l'air surpris, une dame encore jeune, coupe rosée, sans poudre de riz, démodée d'aspect, avec une poitrine abondante, une coiffure compliquée et une robe de chambre défraîchie. Malgré tout, l'ensemble n'aurait pas été déplaisant, n'eût été une expression volontairement hautaine et un port de tête qui devait être, dans son idée, celui d'une baronne. Ce fut bref. Debout, la voix distante, « Vous désirez, monsieur ? Je voudrais parler au baron d'Autray relativement à certains faits qui se sont produits lundi soir dans le train. Ah oui, il s'agit sans doute du vol de l'enveloppe jaune que nous avons lu dans les journaux. Oui, ce vol a eu pour conséquence un assassinat commis cette nuit à Garches et dont la victime est un monsieur Lescaut. Monsieur Lescaut, répéta-t-elle sans le moindre émoi. Oh, j'ignore absolument. Et l'on a des soupçons? Aucun jusqu'ici, mais je suis chargé de m'enquérir auprès des personnes qui ont voyagé lundi de Paris à Garches par ce même train de 6 heures. Et comme le baron d'Autray... Mon mari vous répondra lui-même, monsieur, il est à Paris. Elle attendait que Victor se retirât. Mais il continua. Monsieur d'Autray sort quelquefois après son dîner? Rarement. Ah, cependant, mardi et mercredi, ah oui, en effet, ces deux jours-là, ayant mal à la tête, il a été faire un tour. Et hier soir, ses occupations l'ont retenu à Paris, où il a accouché. Mais non, il est revenu. À quelle heure? Oh, je dormais, j'ai entendu un peu après son retour sonner 11 heures. 11 heures, donc 2 heures avant le crime. Vous affirmez? La baronne, qui avait répondu jusqu'ici machinalement, avec une politesse hargneuse, eut l'intuition soudaine de ce qui se passait, jeta un coup d'œil sur la carte de Victor de la brigade mondaine, et répondit sèchement mais sans comprendre encore: « Mais monsieur, j'ai coutume de n'affirmer que ce qui est. » « Vous avez échangé quelques paroles avec lui ?»«
Certes. »
« Vous étiez donc réveillé tout à fait. » Elle rougit comme prise de pudeur et ne répliqua point. Victor poursuivit. « À quelle heure le baron d'Autray est-il parti ce matin ?»«
Quand la porte du vestibule s'est refermée et j'ai ouvert les yeux, la pendule marquait 6h10. »«
Il ne vous a pas dit adieu ?»
Cette fois, elle s'irrita.
« Mais c'est donc un interrogatoire ?»«
Oh, nos recherches nous obligent parfois à une certaine indiscrétion. Un dernier mot. »
Il tira de sa poche la casquette grise. « Est-ce que vous croyez que ceci appartienne à M. Dautray ?»«
Oh oui, » dit-elle en examinant l'objet. « Oh, c'est une vieille casquette qu'il ne mettait plus depuis des années et que j'avais rangée au fond d'un tiroir. »
Avec quelle sincérité distraite elle fit cette réponse si accablante pour son mari. Mais d'autre part, une telle bonne foi, ne manquerait-il pas que, sur les points essentiels, n'avait pas menti davantage. Victor prit congé en s'excusant de son importunité et en annonçant sa visite pour la fin de la journée. Son enquête auprès de la concierge, qu'il trouva dans la loge, confirma les réponses de Madame Dautray. Le baron avait sonné vers 11 heures du soir pour demander le cordon et frappé vers 6 heures du matin pour s'en aller. Au cours de la nuit, personne n'avait passé ni dans un sens ni dans l'autre. Comme il n'y avait que 3 appartements loués et que les autres locataires ne sortait jamais le soir, le contrôle était facile. Quelqu'un d'autre que vous peut-il de l'intérieur ouvrir la porte?
Oh, pour ça non, il faudrait entrer dans ma loge et je ferme ma clé au verrou.
Madame Dautray sort quelquefois dans la matinée?
Jamais, non, c'est Anna, leur vieille bonne, qui fait le marché. Attelez, la voilà qui vient de l'escalier de service.
Il y a le téléphone dans la maison?
Non.
Victor s'en alla, perplexe, partagé entre des idées contradictoires. Au fond, quelles que fussent les charges relevées contre le baron, il était impossible de mettre en doute l'alibi que les circonstances imposaient en sa faveur. À l'instant du crime, il se trouvait auprès de sa femme. À la gare où il retourna après son déjeuner, il posa cette question. Le baron d'Autray, dont le passage est forcément remarqué lorsqu'il y a peu d'affluence, a-t-il pris ce matin un des premiers trains? La réponse fut unanime et catégorique. Non. Alors, comment s'en était-il allé de Garches? Tout l'après-midi, il recueillit des renseignements sur le ménage d'Autray auprès des fournisseurs, du pharmacien, des autorités, des employés de la poste. Cette tournée où il se rendit compte du peu de sympathie qu'ils inspiraient le conduisit nécessairement chez leur propriétaire, M. Gustave Jérôme, conseiller municipal et négociant en bois et charbon, dont les démêlés avec le baron et la baronne divertissaient le pays. M. et Mme Jérôme possédaient une belle villa
également sur le plateau. Dès l'entrée, Victor sentit l'aisance et la richesse et constata la discorde et l'agitation. Ayant pénétré dans le vestibule après avoir sonné vainement, il entendit le bruit d'une querelle au premier étage, des claquements de portes, une voix d'homme ennuyé sans aigreur, une voix de femme stridente et furieuse qui criait « T'es qu'un ivrogne, oui, toi, Monsieur Gustave Jérôme, conseiller municipal, est un ivrogne. Qu'as-tu fait hier soir à Paris ?»«
Tu le sais bien, ma petite, un dîner d'affaires avec Deval. » Et avec des poules, évidemment. Oh, je connais ton Deval, un osseur. Et après le dîner, les folies bergères, hein, les femmes nues, le dancing, le champagne. Mais tu es folle, Henriette. Je te répète que j'ai ramené Deval en auto à Suresnes.
À quelle heure?
Je ne saurais dire. Évidemment, t'étais ivre. Mais il devait être 3 ou 4 heures du matin, ce mort. Tu profites de ce que je dormais.
Et la dispute dégénérait en bataille. Monsieur Jérôme se précipita vers l'escalier qu'il dégringola, poursuivi par son épouse, et aperçut le visiteur qui attendait dans le vestibule et qui aussitôt s'excusa.
« Oh, j'ai sonné, personne répondant, je me suis permis. »
Gustave Jérôme, un assez bel homme d'environ 40 ans, au teint fleuri, se mit à rire.
Vous avez entendu, une petite scène de ménage. Aucune importance. Henriette est la meilleure des femmes, mais entrez donc dans mon bureau. À qui ai-je l'honneur?
Inspecteur Victor de la brigade Mandela. Ah oui, l'histoire du pauvre père Lescaut.
Je viens plutôt, interrompit Victor, me renseigner sur votre locataire, le baron d'Autray.
En quels termes êtes-vous tous deux?
Très mauvais terme. Ma femme et moi, nous avons occupé durant 10 ans l'appartement que nous leur louons maintenant dans notre immeuble. Et c'est un déluge de réclamations, chicanes, exploits d'huissier. Et pour rien, par exemple, au sujet d'une deuxième clé de l'appartement que je leur ai remise et qu'ils prétendent n'avoir pas reçue. Bref, de bêtises.
Et finalement, bataille, dit Victor.
Oh, vous savez donc, ma foi, oui, bataille, fit en riant Monsieur Jérôme. J'ai reçu en plein nez un coup de poing de la baronne. Quel regret, j'en suis sûr.
Elle regrettait quelque chose, s'écria Madame Jérôme. Elle, cette chipie, cette grande race qui passe son temps à l'église. Quant à lui, monsieur l'inspecteur, un homme taré, ruiné, qui ne paye pas son loyer, qui est capable de tout.
Elle avait une jolie figure, aimable et sympathique, mais une voix assez éraillée, faites pour les invectives et l'active colère. Son mari, d'ailleurs, dut lui donner raison et fournit des renseignements déplorables. Faillite à Grenoble, histoire malpropre à Lyon, tout un lourd passé de fraude et de tripotage.
Victor n'insista pas. Il entendit derrière lui la querelle qui se ranimait et la voix de la dame qui glapissait.
« Mais où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fichu ?» « Tais-toi, sale menteur !»
En fin d'après-midi, Victor s'installa au café des sports et parcourut les journaux du soir qui ne relataient rien de spécial. Mais plus tard, on lui amena un monsieur et une dame de Garches qui arrivaient de Paris et qui assuraient avoir vu, aux environs de la gare du Nord, le baron d'Autray dans un taxi avec une jeune femme. Sur le siège, près du chauffeur, 2 valises. Était-ce une certitude? Victor savait mieux que personne combien ces sortes de témoignages sont sujets à caution.
Non, en tout cas, pensa-t-il, le dilemme est simple. Ou bien le baron s'est enfui en Belgique avec les bons de la défense et avec une dame qui pourrait bien être la belle créature que j'ai revu dans l'encadrement de la fenêtre du père Lescaut. Ou bien, il y a erreur, et il arrivera ici dans un instant par son train habituel. Et alors, c'est que malgré toutes les apparences, la piste est fausse.
À la gare, Victor retrouva Vaillant près de la sortie et voyageurs. Le train était signalé. On le vit bientôt qui débouchait au tournant. Une trentaine de voyageurs en descendirent. Vaillant poussa Victor du coude en murmurant « Celui-là qui vient, par-dessus gris foncé, chapeau mou, c'est le baron !»
L'impression de Victor ne fut pas défavorable. L'attitude du baron ne trahissait pas la moindre agitation, et sa figure paisible, reposée, n'était pas celle d'un homme qui a tué 18 heures auparavant et qui est harcelé par le souvenir, l'angoisse de ce qu'il va faire et l'épouvante de ce qui peut advenir. Non, c'était la figure d'un monsieur qui accomplit, selon le rythme ordinaire, sa besogne quotidienne. Il salua l'employé d'un signe de tête et s'éloigna par la droite vers sa demeure. Il avait à la main un journal du soir, plié, avec lequel il frappait distraitement les barreaux des grilles sur son passage. Victor, qui le suivait à une certaine distance, hâta le pas et atteignit l'immeuble presque en même temps que lui. Sur le palier du quatrième étage, comme l'autre tirait sa clé, il lui dit « Le baron d'Audrey, n'est-ce pas ?»« Vous désirez, monsieur ?»« Oh, quelques minutes d'entretien, inspecteur Victor de la brigade mondaine. » Incontestablement, il y eut un choc, désunion, effort de volonté. Les mâchoires se contractèrent. Oh, ce fut rapide. Et après tout, ce pouvait être l'effet tout naturel que produit sur les plus honnêtes gens la visite inopinée de la police. Madame d'Autray brodait près de la fenêtre dans la salle à manger. En avisant Victor, elle se leva d'un coup. « Laisse-nous, Gabriel !» fit son mari après l'avoir embrassé. Victor prononça « Oh, j'ai eu l'occasion de vous voir déjà madame ce matin et notre conversation ne peut que gagner à sa présence. »« Oh !» fit simplement le baron, qui ne parut pas davantage étonné. Et il reprit en montrant son journal. « Oh, je viens de lire votre nom, monsieur l'inspecteur, à propos de l'enquête que vous poursuivez, et je suppose que vous désirez m'interroger comme abonné de la ligne et familier du 36 heures. Ben, je vais vous dire tout de suite que je ne me rappelle plus du tout avec qui je me trouvais lundi dernier, et que je n'ai noté aucun manège suspect, aucune enveloppe jaune. » Madame d'Autray intervint d'une voix hargneuse. Ah, « Monsieur l'inspecteur est plus exigeant, Maxime. Il voudrait savoir où tu étais cette nuit, tandis que l'on commettait un crime au haut de Garches. » Le baron sursauta. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Victor présenta la casquette grise. « Mais voici la casquette que portait l'agresseur et qu'il a jetée dans un enclos voisin. Et ce matin, Madame d'Autray m'a déclaré qu'elle vous appartenait. » D'Autray rectifia. « Elle m'a appartenu, plutôt. Oh, elle était dans le placard de l'antichambre, n'est-ce pas, Gabriel ?» dit-il à sa femme. « Oui, il y a 2 semaines environ que je l'y ai rangé. Oui, il y a 1 semaine que, moi, je l'ai mise à la boîte aux ordures, ainsi qu'un vieux cache-nez mangé au verre. Un vagabond l'y aura recueilli. Et ensuite, monsieur l'inspecteur ?» Mardi soir et mercredi soir, aux heures mêmes où vous êtes sortis, on a vu rôder autour de la bicoque l'homme qui portait cette casquette. Oui, je me souviens, j'avais mal à la tête, je me suis promené, mais pas de ce côté. Par où ? Sur la grande route de Saint-Cloud. Vous avez rencontré quelqu'un ? Probablement, mais j'ai pas fait attention. Et hier soir, jeudi, vous êtes rentré à quelle heure ? À 11 heures. J'avais dîné à Paris, ma femme dormait. Selon madame, vous avez échangé quelques paroles. Où tu crois, Gabriel ? Je ne me souviens plus. Si, si, fit-elle en s'approchant de lui, souviens-toi. Il n'y a pas de honte à dire que tu m'as embrassé. « Seulement, ce que je te demande, c'est de ne plus répondre à ce monsieur.
Tout cela est tellement inconcevable, tellement stupide. Son visage se durcissait et ses joues lourdes et couperosées s'empourpraient davantage. « Mais monsieur a accompli son devoir, Gabriel, dit le baron. Je n'ai aucune raison pour ne pas l'y aider. Dois-je préciser l'heure de mon départ ? Ce matin, monsieur l'inspecteur, il était 6 heures environ. Vous avez pris le train ?
Oui.
Cependant, aucun des employés ne vous a vu.
Le train venait de passer, et dans ce cas-là, j'ai coutume d'aller jusqu'à la station de Sèvres, qui est à 25 minutes de distance. Ma carte d'abonnement m'en donne le droit.
On vous y connaît ?
Moins bien qu'ici, les voyageurs y sont beaucoup plus nombreux. J'ai été seul dans mon compartiment.
Il envoyait ses ripostes sans hésitation, d'un coup. Elles étaient formelles et constituaient un système de défense si logique qu'il était difficile de ne pas l'accepter, provisoirement du moins, comme l'expression même de la vérité.
« Pourrez-vous m'accompagner demain à Paris, monsieur ?» dit Victor. « Nous y rencontrerons les personnes avec qui vous avez dîné hier soir et celles que vous avez vues aujourd'hui. »
À peine acheva-t-il sa phrase que Gabriel Dautray se dressa près de lui, les traits bouleversés par l'indignation. Il se souvint du coup de poing lancé à M. Jérôme et eut envie de rire, car la dame avait un air comique. Elle se contint. Son bras s'allongea vers le mur où pendait une image sainte et elle prononça « Mais je jure sur mon salut éternel !» Mais l'idée même du serment à propos d'attaques aussi misérables dut lui paraître inconvenante. Elle ébaucha un signe de croix, marmotta quelques mots, embrassa son mari avec tendresse et compassion, et s'en alla. Les deux hommes restèrent debout l'un en face de l'autre. Le baron demeurait silencieux, et Victor fut stupéfait de constater que la belle apparence de sa figure calme et reposée n'était pas naturelle, et qu'il portait du rouge sur ses joues, un rouge violacé comme en portent beaucoup de femmes. Et il nota aussitôt l'extraordinaire lassitude des yeux cernés de noir et de la bouche au coin tombant. Quelle transformation subite et qui semblait s'aggraver de seconde en seconde.
« Vous faites fausse route, monsieur l'inspecteur, dit-il gravement. Mais il advient que votre enquête, par un contre-coup injuste, entre en plein dans ma vie secrète et m'oblige à une confession pénible. » En dehors de ma femme, pour qui j'éprouve surtout de l'affection et du respect, j'ai depuis quelques mois une liaison à Paris. C'est avec cette jeune femme que j'ai dîné hier soir. Elle m'a conduit jusqu'à la gare Saint-Lazare et ce matin, je la retrouvais dès 7 heures.
Conduisez-moi chez elle demain, ordonna Victor. Je viendrai vous chercher en auto.
Le baron hésita. Puis à la fin répondit « Au soit !»
Cette entrevue laissa Victor incertain, soumis tour à tour à des sentiments et à des raisonnements dont aucun ne correspondait à une réalité indiscutable. Le soir de ce vendredi, il s'entendit avec un agent de Saint-Cloud pour surveiller la maison jusqu'au milieu de la nuit. Il ne se produisit rien de suspect.